Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Merci de nous rejoindre. Notre portrait aujourd'hui, celui du peintre français Georges Braque, co-inventeur du cubisme, 1882-1963. Dans l'accordé qu'il formait avec Picasso, difficile de dire lequel tirait davantage l'autre. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les œuvres de Georges Braque n'ont longtemps été exposées qu'en miroir avec celles du grand maître, présentées d'ailleurs souvent en contrepoint, et donnant l'image d'un Braque disciple de Picasso plus que d'un réel co-créateur du cubisme, ce qu'il était pourtant. La rétrospective que Brigitte Léal propose au Grand Palais et que l'on peut visiter jusqu'au 6 janvier prochain est ainsi la première depuis rien moins que 40 ans à présenter l'artiste pour lui-même et non dans l'ombre d'un autre. Françoise Esteb et Gilles Davidas vous proposent aujourd'hui d'aller au plus près possible de cet homme secret dans une émission qu'ils ont voulu contraster, un peu à l'image de cette maxime de Braque, il faut toujours avoir deux idées, l'une pour détruire l'autre.
Vous entendez maintenant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois qui sonne 10 heures. Et voici...
Monsieur André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles.
Avant que Georges Braque repose dans le petit cimetière normand qu'il a choisi, j'apporte ici l'hommage solennel de la France. Jamais un pays moderne n'a rendu à un de ses peintres morts un hommage de cette nature. L'histoire de la peinture qui trouve dans l'œuvre de Braque un accomplissement magistral a été une longue histoire de dédain, de misère et de désespoir. Et jusque par sa mort, Braque semble assurer la revanche des pauvres obsèques de Modigliani du sinistre enterrement de Van Gogh.
Le maître a-t-il un message à transmettre au jeune peintre?
Eh bien, je souhaite que ce qui est exposé ici ait une influence, car je veux dire que dans le fond, j'ai assez confiance dans ce que j'ai fait. Ça pouvait servir de chemin, les guider un peu dans leur départ. Je pense que c'est très suffisant, vous savez, car il ne s'agit pas de persuader personne, vous comprenez, ni de convaincre personne, n'est-ce pas, mais ce qu'il faut surtout, c'est les forcer à réfléchir. Si ça peut amener des réflexions, je serais beaucoup mieux, plus satisfait que ça devait créer une sorte d'école autour de ce que j'ai fait.
Il n'était pas essentiellement critique.
Stanislas Fumet.
Il n'était jamais tellement sûr. C'était un inquiet. Il avait un œil d'inquiet et qui m'a beaucoup frappé. Et tout le temps, il voulait avoir votre approbation. Et la plupart de ces phrases un peu intéressantes finissaient par « Quoi ? Un quoi interrogatif ? C'est pas vrai ce que je dis. » Enfin, c'est ça. Ce n'était pas un homme tranquille. Il arrivait à une certaine sérénité dans son œuvre, mais... c'était toujours une espèce de lutte contre une inquiétude. Il n'était pas réactionnaire, mais il avait horreur de la Révolution.
Le souvenir vraiment que je garde de Braque...
Jean Cassou.
Le souvenir qui résume toute son attitude pour moi, c'est le coin de son atelier dans lequel il se tenait assis, ramassé sur lui-même et jetant autour de lui... un regard concentrique. Toutes ses œuvres, en train, étaient rangées autour de lui. Il était là vraiment comme au centre de son cerveau. Il était donc là au centre de lui-même. Toutes ses œuvres étaient rangées autour de lui, soit sur des chevalets, soit par terre, soit sur des petits appuis. Là, ces petites œuvres de sculpture, par exemple, ces plâtres gravés, et tout cela était très ordonné, rangé circulairement, de sorte que il ne contemplait pas son œuvre en train, mais il la méditait.
Georges Braque, un homme cérébral, secret, pudique. Une vie tout entière vouée à la peinture, une vie d'où l'anecdote intime est exclue. Né en 1882 à Argenteuil, sous la lumière des impressionnistes, Braque partit avec ses parents, à l'âge de 8 ans, pour Le Havre. en pleine atmosphère impressionniste encore, il était le fils et le petit-fils d'entrepreneurs de peinture en bâtiment. Et c'est dans ce contexte familial qu'il apprendra les techniques de la décoration et le goût de la matière, de la texture tactile. Au lendemain de son service militaire, Braque renoncera à prendre la succession de l'entreprise familiale, mais son œuvre restera marquée par cet apprentissage artisanal. Armand Israël.
Peu de gens savent que Braque était un artisan, un vrai artisan. Il a fait de la peinture parce que son père était peintre, mais il a compris très vite que la peinture banale n'était pas pour lui. La décoration, à la limite, parce qu'il a été décorateur, mais il a été avant tout un artisan. Dans le cubisme en particulier, Picasso s'est beaucoup intéressé à Braque parce qu'il avait appris à faire, par exemple, du faux bois. Il avait appris à faire du faux marbre, les pochoirs, des inclusions de toutes œuvres différentes. Il savait manœuvrer, manier la peinture, car il faisait lui-même sa peinture. Et tout ce côté artisanal a été très vite assimilé par Picasso.
Vous écrivez, Brigitte Léal, que la peinture de Braque est intransigeante, hors de toute séduction.
C'est-à-dire que c'est une œuvre, on le voit bien, qui n'est pas dans la séduction immédiate. D'abord, il y a cette présence physique de la peinture. Les reproductions apportent de mauvais témoignages sur ces œuvres, puisqu'il y a ces effets de matière qui sont véritablement fondamentaux dans sa peinture du début à la fin, mais surtout dans la peinture d'après-guerre, où il joue véritablement sur l'idée du tableau-relief, d'un travail tout en épaisseur, avec une matière très, très présente, héritage de son enfance passée auprès du père et du grand-père qui étaient peintres en bâtiment. Il n'y a pas de séduction facile. Braque était un homme extrêmement pudique et il n'a jamais extériorisé sa vie privée à travers son œuvre. Il n'y a pas un seul autoportrait dans son œuvre. Au fond, ses autoportraits, ce sont les images de ses ateliers, ce sont ses paysages. Et il n'y a pas un seul portrait de sa femme Marcel. Pourtant, c'était la seule femme de sa vie. Et donc, son œuvre privée, toute accroche privée, en quelque sorte, est véritablement écartée. Et ses seuls sujets, ce sont les paysages et les natures mortes. Je pense que la rétrospective, elle montre à la fois salle après salle qu'il y a des vraies scansions, des vrais changements dans l'œuvre de Braque, des vraies métamorphoses, pour reprendre le terme de l'auteur de sa grande monographie, Karl Einstein, qui voit son œuvre comme une métamorphose constante. Mais c'est à la fois chez Braque ces temps de secousses, de révolutions imperceptibles peut-être, et puis en même temps une sorte de continuité. Il a dit lui-même que son père spirituel, ça a été Cézanne. Et effectivement, il a considéré aussi que ses premiers pas dans la peinture, ses tableaux d'académie, ses portraits un peu sombres ne comptaient pas, au point qu'il a détruit en réalité toute son œuvre de jeunesse. Et il fait démarrer son œuvre avec le fauvisme en 1906, sa propre interprétation du fauvisme, c'est-à-dire une peinture fondée sur la couleur, mais il l'interprète à l'estac. Ce n'est pas un lieu innocent, c'est véritablement le creuset intime de l'œuvre de Cézanne. Aussi la petite baie de la Ciotat de 1907, c'est un tableau qui avait été vendu et qu'il a racheté et qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie auprès de lui et qui ensuite a intégré les collections du Musée national d'art moderne.
Braque dit que s'il aime ce tableau, c'est que les couleurs n'y rugissent pas.
Françoise Nicole.
Et que c'est une violence contenue. Et ça, c'est une clé pour saisir la suite de l'œuvre. On dit parfois, Braque c'est la tendresse, Braque édulcore, Braque... Bon, non, c'est pas comme ça que ça se joue. C'est qu'il y a toujours la violence et il y a toujours le fait qu'elle soit contenue dans cette élaboration à partir des moyens qui sont ceux que les peintres ont mis à leur propre disposition.
Fin 1906, il va découvrir Cézanne qui vient de mourir parce qu'il y a une rétrospective de ses œuvres. Et Braque comprend très vite, en voyant Cézanne, que le fauvisme, qu'il avait commencé depuis un an, était pratiquement terminé dans son esprit. Alors il a continué un petit peu, mais ça n'a duré pour lui qu'une année, parce qu'il a tout de suite vu le premier, en 1906, à cette rétrospective, ce que faisait Cézanne. Ça, c'est déterminant pour l'histoire mondiale de la peinture. Qu'est-ce que faisait Cézanne? Il prenait un objet qui était l'élément principal de toute la peinture. On dessinait un objet, on dessinait un fruit, un portrait, etc. Eh bien, cet objet, il en a sorti la structure. Il a en fait démonté, déstructuré. Braque a été le premier, le seul à comprendre cela. Immédiatement, alors qu'il présentait au Salon d'automne ses tableaux, il a tout abandonné pour aller à l'Estaque où Cézanne avait peint. Cézanne étant mort, il a pris conscience qu'il n'avait pas fini son travail. Peut-être d'ailleurs l'aurait-il fait d'une autre façon, mais quoi qu'il en soit, il s'est dit « Moi, je vais inventer la vraie troisième dimension, car je vais prendre ces objets qui sont déstructurés, qui sont à l'abandon, et les reconstituer, mais d'une façon complètement différente, avec des éléments géométriques, avec des angles, avec des lignes, avec des traits, avec des courbes, avec des surfaces, avec des volumes. » Et bien entendu, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était donc la troisième dimension en peinture. Et il est allé plus loin, puisque la conception était intellectuelle. Donc il a en même temps créé la troisième dimension et la quatrième dimension, la dimension intellectuelle. Car il a réinterprété l'objet complètement. Et puis progressivement, ses œuvres ont été synthétisées de plus en plus pour arriver à pratiquement les éliminer. Et c'était l'abstrait.
Daniel Henri Canveller.
Quand ai-je connu Georges Braque? Il me semble que ça a dû être au printemps 1907. Les tableaux de cette époque-là sont des tableaux pré-cubistes déjà, on peut dire. Il avait vu, sans doute amené par Guillaume Apollinaire, les demoiselles d'Avignon, qui n'avaient pas aimé, mais un travail lent a dû se faire, et chez lui aussi germait cet art nouveau, le cubisme. Il y a longtemps de tout cela, c'est alors que cette aventure prodigieuse a commencé.
Alors dans cette salle, nous sommes dans une période de transition, les maisons à l'Estac, le grand nu, donc Braque abandonne le fauvisme, mais nous sommes dans une période pré-cubiste. Certains considèrent que le grand nu est le premier tableau cubiste, contrairement à ceux qui prônent bien entendu les demoiselles d'Avignon de Picasso. Qu'en pensez-vous, Brigitte Léal?
Alors le grand nu de Braque, donc fin 1908, c'est un tableau singulier dans l'œuvre de Braque, dans la mesure où déjà c'est un nu, c'est un sujet extrêmement rare dans son œuvre. Et effectivement, il faut vraiment le voir comme une sorte d'écho à d'autres tableaux. D'abord, les baigneuses de Cézanne. Le voltime de Cézanne, elle est vraiment fondée sur la déconstruction de la forme, justement, l'idée de la couleur aussi qui construit la forme, et puis aussi de la géométrisation des formes au mépris de toute anecdote et de la fin de la perspective atmosphérique traditionnelle. Et donc cette nouvelle façon de représenter la peinture, elle s'incarne aussi chez Braque dans ce grand nu extraordinaire de 1908 qui ouvre l'exposition en majesté, qui est un écho bien sûr aux baigneuses de Cézanne, mais aussi aux demoiselles d'Avignon de Picasso, puisque c'est dans l'atelier du bateau Lavoir où l'avait amené Guillaume Apollinaire en 1907 que les deux hommes se rencontrent pour la première fois. Ils avaient 20 ans, nos fauves et nos cubistes. Ils voulaient asseoir leur cubisme sur une sorte de matérialisation, comme ils l'ont dit, d'un espace nouveau, là véritablement fondé sur un travail sur la forme, où la couleur réaliste, figurative, est complètement éliminée au profit de peu de couleurs qui justement renforcent l'homogénéité de la composition, avec effectivement l'insistance sur la planéité du tableau. Ce qui compte dorénavant, c'est la représentation qui évince la représentation illusionniste avec la fiction de la profondeur creuse pour ne tenir compte que tout simplement des deux dimensions de la toile. Et là, c'est véritablement une révolution, puisque c'est au fond l'abstraction qui est en marche.
Ce nu est un petit peu issu des demoiselles d'Avignon. Mais les demoiselles d'Avignon ont été terminées quand Picasso a vu le grand nu de Braque. Ses premières œuvres, dites cubistes, que tout le monde a cru, tout le monde est tombé dans le panneau, c'est-à-dire les demoiselles d'Avignon ne sont pas cubistes, elles sont primitivistes. Et je crois qu'il n'y a plus aucune raison de dire que Picasso a inventé le cubisme et que les demoiselles d'Avignon sont cubistes. C'est une grave erreur qui s'est prolongée parce que Braque ne s'est pas révolté. Moi, j'ai déjà écrit des choses depuis une quinzaine d'années où j'ai expliqué et je me suis toujours battu pour démontrer cet état de fait. Il y a encore quelques années, on disait c'est Braque et Picasso. Maintenant, on commence à dire enfin, c'est Braque qui a inventé le cubisme.
Alors Braque, il a décidé qu'il allait faire autre chose que de la couleur. Il a changé d'avis, il a changé de style. Et là, on va regarder la peinture qui est juste au-dessus de moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit représenté sur cette peinture ? C'est pas comme une guitare, c'est une guitare, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'une guitare ?
Je sais.
Oui.
Une table.
Une table ? Cette guitare, elle a l'air posée sur une table. Oui.
Du fromage et des fruits.
Alors, du fromage, je ne suis pas sûre, mais des fruits, tout à fait. Est-ce que vous arrivez à voir en bas de la guitare, il y a plusieurs fruits dans une sorte d'assiette. Quels fruits distinguez-vous ?
Des citrons.
Il y a un citron. Alors les citrons, il y en a même deux. Ils sont à côté de la guitare en bas et dans l'assiette. Oui ?
Ah, du raisin.
Du raisin. Et ? Oui ?
La poire.
Et des poires. Vous allez voir ces instruments et ces éléments, la guitare, le raisin, le citron et la poire, dans plein d'œuvres de l'exposition. Puisque Georges Braque, c'est un monsieur très calme, qui restait très souvent dans sa maison, et qui, après avoir fait toutes ses couleurs au bord de la mer, a décidé de vivre tranquillement chez lui, et de ne faire plus que des peintures avec des objets. Alors il a beaucoup fait des guitares, puisqu'il était musicien et il jouait de la guitare lui-même. Cette guitare, est-ce qu'elle ressemble à une photo ? Il manque quelque chose pour que ce soit comme dans une photo. Il y a quelque chose qui, normalement, il y a sur une guitare et là, il n'y a pas. Oui,
des cordes.
Des cordes. Et pourtant, vous avez quand même reconnu que c'était une guitare. Ça veut dire qu'elle est quand même bien faite, cette guitare. Puisque Georges Braque, il a envie de nous faire des peintures qui soient comme des énigmes. Son but, c'est qu'on reconnaisse ce que c'est, même si ça ne ressemble pas à une photo. C'est pour nous faire travailler un petit peu. Alors il y a des gens qui ont dit à Georges Braque, on dirait pas des guitares, des peintures, on dirait des petits cubes en bois. Est-ce que vous avez déjà joué avec des cubes en bois quand vous étiez plus petit peut-être ?
Moi quand j'avais 1 an et 2 ans, c'était des petits cubes.
Et alors voilà, il y a des gens qui se sont dit, cette toile là, ça ressemble à des petits cubes en bois. Alors du coup ils ont appelé Georges Braque un cubiste. Voilà, et du coup on dit que c'est de la peinture cubiste. Alors qu'à l'origine, Braque il voulait pas peindre des petits cubes en bois, hein. Il voulait peindre des guitares. Donc lui, il n'aurait jamais eu l'idée de dire qu'il faisait des cubes. Ah ben là, vous allez en voir beaucoup des guitares et des violons. Alors,
mon cher Picasso, je suis en pleine ébullition au salon d'automne à ma dernière exposition. Notre ami Matisse, qui faisait partie du jury, a refusé mes toiles, c'est l'art moderne qui l'injurie. Je passe des heures assis dans le musée du Louvre à fixer des masques et des statues aux yeux qui bougent. Je veux réformer, sortir enfin de nos quatre petits murs, explorer l'Afrique et la faire bouger en peinture. Je ne plierai jamais sous les détracteurs du cubisme, prisonnier à vie dans les prisons du classicisme. Gravons nos prénoms sur les tableaux du modernisme.
Picasso et Braque, devenus amis à partir de cette époque-là, travaillent presque de concert. Ils se voient tous les jours et à 5 heures, tous les soirs, ils descendent jusqu'à ma petite galerie. Braque, physiquement, était très différent de Picasso. Il était grand, un très beau visage et déjà à cette époque-là, il était une sorte dandy. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est l'époque admirable que cette époque a été pour nous, d'exaltation juvénile, de mépris des ennemis. À partir de cette époque-là, aucun des peintres que je représentais n'exposait plus dans des salons publics. Nous voulions éviter les rires de la foule dont nous ne voyons pas l'utilité.
Oublie les critiques et leur langue pleine de poison. Surtout continue tes demoiselles d'Avignon. Donne ma tendresse à la douce et fragile Eva. Elle est comme nous tous, elle a tellement besoin de toi. C'est signé Georges Braque, ton ami pour toujours.
Et c'était, si vous voulez, quelque chose d'extraordinaire de les voir l'un et l'autre progresser dans un climat de détente. Ils ne savaient pas qu'ils allaient inventer ce qui était le mouvement le plus important de toute l'époque moderne. Mais ils se sont aussi amusés. Picasso faisait une œuvre, il signait Braque. Braque faisait une œuvre, il signait Picasso. Mais ça, c'était des jeux. C'était des enfants, c'était de jeunes gens, c'est tout. Il faut savoir qu'ils s'amusaient aussi. Même si les choses sont devenues sérieuses après, sur le moment, ils ne savaient pas ce qu'elles allaient devenir.
Il y a des propos assez mystérieux de Braque concernant ses rapports avec Picasso. Il parle des choses secrètes qu'ils se sont dites, qui ne seront plus jamais accessibles à personne.
J'aime bien ça.
On a l'impression d'une alchimie entre eux, de quelque chose de très, très secret.
Alors, c'est curieux. Vous voulez qu'on le relise, ça ? J'aime bien ça, parce que c'est vrai que c'est très émouvant.
Rémi Labrousse.
Ce rapport avec Picasso est un rapport qui est décliné, après leur éloignement réciproque, sur le mode de la nostalgie, et d'une nostalgie très intense. Hein, parce que, comme vous le disiez à l'instant, il a dit à plusieurs reprises, et par exemple, des phrases comme celle-ci. On s'est dit avec Picasso ces années-là des choses que personne ne se dira plus, des choses que personne ne saurait plus se dire, que personne ne pourrait plus comprendre, des choses qui seraient incompréhensibles et qui nous ont donné tant de joie, et cela sera fini avec nous. Mais ce qui est frappant aussi dans ce genre de confession, c'en est une, c'est l'exigence de rétention. Je ne vous le dirai pas. Je suis détenteur avec Picasso d'un trésor, au fond, que j'emporterai dans ma tombe. Comme si il y avait aussi une pulsion, presque de mauvais garçon, une pulsion de destruction, une envie de casser, sans le dire jamais à personne, ce qui a été fait en secret et qui, au fond, est impartageable. Alors, évidemment, le spectateur est laissé sur le bord du chemin, dans ces cas-là. Il n'a pas la clé de l'énigme, la clé de la dernière cassette, comme disait Mallarmé. Sauf que ça laisse à penser que cette clé de la dernière cassette, c'est précisément une intuition du néant chez Braque.
Moi, je suis très heureux, tellement ému de voir ces toiles.
Pierre Reverdy.
Presque sombres. Tellement discrètes de couleurs et qui me donnent une telle impression de luminosité et d'éclat que je ne puis presque rien dire autre chose.
J'étais très heureux de vous entendre parler de la couleur au sujet de ces toiles, car je me suis aperçu que rien n'est dirigé, enfin, ou si peu, c'est la peinture que j'ai constatée dans ces toiles qu'il y avait vraiment une économie de couleurs. D'ailleurs, il faut bien dire, pour nous, pour les artistes en général, la chose, la couleur en l'espèce, n'a très peu d'importance, car pour nous, ce qui compte, c'est le rapport des choses. Et pour la couleur, c'est identiquement pareil. C'est le rapport des couleurs qui compte, n'est-ce pas ?
C'est bien difficile de dissocier les choses d'un tableau. C'est comme les gens qui me disent, mais qu'est-ce que représente votre tableau ? Quoi ? Eh bien, c'est entendu, il y a une pomme, il y a, je ne sais pas, une assiette à côté. Mais ces gens-là ont l'air d'ignorer totalement que ce qui est entre la pomme et l'assiette, je le peins aussi, et ma foi, ça me paraît tout aussi difficile de peindre l'entre-deux que de peindre les choses. Ça me paraît un élément aussi capital que ce qu'ils appellent l'objet. Vous comprenez ? Et c'est le rapport, justement, de ces objets entre eux et de l'objet et le rapport de l'objet entre moi et moi qui constitue le sujet, vous comprenez ? Souvent, on vous dit, mais qu'est-ce que représente votre tableau ? Mais les rapports donnent toujours des choses différentes. Par exemple, je ne suis pas obligé de définir quel est ce fruit qui est là, étant donné que si je fais une corbeille, si je mets une orange à côté d'un citron, l'orange 16 est une orange, et le citron à citron pour devenir fruit. J'ai bien le droit de le dire, ce qu'on cherche chicane. Je ne sais pas au littérateur quand il parle d'une corbeille de fruits.
Il faut tuer l'objet.
Dans tous les cas, ce qui compte, c'est l'entre-deux. C'est l'enlacement, c'est cet espace qui est à la fois pictural et, comme il le dit, tactile. Parce qu'en plus, il vient vers le spectateur, il bascule vers le spectateur.
L'idée principale de la démarche picturale de Braque, c'est en effet de retirer à l'objet toute sa fonction. C'est-à-dire que l'objet devient une forme, quelque sorte. Et j'allais même dire, pire que ça, ce qui intéresse Braque, c'est le vide qu'il y a autour de l'objet. Voilà. C'est pas le vase qui intéresse Braque, c'est le bout d'espace que le vase dessine dans le vide. Et c'est cette recherche du vide. C'est pour ça qu'à certains moments, on a comparé la démarche de Braque à des philosophies orientales, notamment au taoïsme, parce que c'est cette recherche du vide et de l'importance du vide.
Il y a une autre phrase de Braque qui m'intéresse beaucoup. Et
Françoise Nicole.
Quand une tache de blanc aboutit à une nappe, alors la plastique aboutit à sa poétique. Et on revient sur le mot poétique. C'est-à-dire qu'il y a la toile blanche, et il y a le pinceau, la brosse qui commence à courir, et il y a la peinture blanche. Et le blanc, à un moment donné, sera une nappe.
Donc le motif s'impose de lui-même.
Le motif vient, mais il n'est pas pensé préalablement au tableau. Il vient sous la brosse, dans un mouvement qui est un mouvement de travail mental, qui sait, qui a commencé depuis très très longtemps et que Braque décrit par trois mots: imprégnation, obsession, hallucination.
1912, une nouvelle révolution qui subvertit les codes de la peinture, une étape vers la désacralisation de l'artiste. C'est le papier collé, une révélation, selon le mot de Georges Braque.
Et il y a une autre petite anecdote importante qui a fait débuter la deuxième partie du cubisme, le cubisme synthétique.
Armand Israël.
C'est une histoire très intéressante. Braque et Picasso vont se promener à Avignon. Ils sont en vacances, ils vont se promener. Braque repère un papier peint. Et tout de suite, une idée lui vient en tête. Et puis Picasso était obligé d'aller à Paris. Et il a attendu que Picasso soit parti pour aller acheter ce papier peint et le transformer pour le mettre dans les papiers collés.
Il en découpe trois échantillons qu'il va coller sur un dessin qui est à la fois un mélange de tradition classique, puisqu'on voit que le dessin est dominé par une grappe de raisin très bien dessinée, qui montre d'ailleurs toute la maestria du métier de dessinateur chez Braque. Et puis il y a un compotier de fruits, ça c'est une allusion bien sûr à Cézanne le compotier, un verre cubiste, une vue plongeante, une vue d'en haut sur ce compotier, l'introduction des lettres. Donc nous savons où nous sommes dans un bar, il l'écrit carrément, plutôt que de représenter un bar, on écrit le mot bar et il y a une bouteille de bière halleuse sur la table. Donc tout est écrit. C'est une œuvre extraordinaire parce qu'elle est vraiment riche de sens. La couleur, elle est réintroduite uniquement par le papier collé, par l'objet tout fait. Il n'y a plus une trace de couleur manuelle. C'est l'introduction des lettres dans la peinture. Et donc il y a dans ce très simple, très pur papier collé, il est véritablement bourré de signes et de références, et c'est aussi introduire la notion de ce que Marcel Duchamp a appelé le regardeur, le rôle du regardeur dans l'art du XXe siècle. C'est le regardeur qui fait l'œuvre d'art. Et effectivement, avec tous ces papiers collés, ces collages, c'est à nous de les lire, pas seulement de les regarder, mais à nous de les lire et de les interpréter. Et après tout, de les interpréter à notre guise. Et on voit au fur et à mesure que les papiers collés s'enrichissent de toutes sortes de matériaux nouveaux, comme les bandes de papier journal, par exemple, qui sont à lire véritablement. Alors parfois, Braque et Picasso s'amusent à les mettre à l'envers pour empêcher toute lecture, mais il reste le grain du papier, ces papiers qui vont vieillir avec le temps, donc encore une fois, se métamorphoser. Et puis, vous voyez les fameux découpages directement dans les manchettes de journaux avec les titres, qui sont toujours tronqués. garder la part de mystère à le quotidien. C'était le quotidien du Midi, l'écho d'Alger, il y a les dates. Et donc cette présence des dates aussi est très importante. C'est la présence de l'histoire, la petite histoire, mais petit à petit, la grande histoire aussi. Vous savez que c'est ce qui avait choqué les contemporains. Comment est-ce qu'on peut faire des œuvres d'art avec du papier journal, des bouts de paquets de tabac écrasés, avec des riens? Et Picasso avait répondu « Oui, parce que l'on veut dégoûter tout le monde ».
Il faut bien comprendre une chose, c'est que le papier collé, c'est une révolution.
Les politicards seront planqués pendant que nous, sous les obus, nous défendrons leurs belles idées. Que deviendront ces gosses perdus, mourant de faim dans les tranchées, les uns contre les autres jetés, parce qu'ils sont étrangers. Plus tard, bien sûr, on fera la paix, on comblera les trous de bombes. Les survivants font des projets, agenouillés devant des tombes. Les artistes resteront les témoins, marchant dans les ruines et les cendres d'un monde dévasté.
Braque est mobilisé en août 14 avec Derain, avec Fernand Léger. Il y a toute une génération cubiste comme ça qui sombre dans la guerre de 14, expérience bien sûr tragique pour eux. On sait que Derain s'est beaucoup confié là-dessus dans sa correspondance et Léger aussi dans ses propres lettres de la guerre qui sont absolument magnifiques. Et Braque, lui, est resté silencieux sur ce traumatisme de la guerre de 14, mais qui était réel pour lui, parce qu'en plus, il a été grièvement blessé en 1915 dans la Somme. Il a été laissé pour mort, trépané, gazé, aveugle pendant quelques semaines. Et on voit cette magnifique photographie dans l'exposition, enfin, bouleversante photographie, prise par le sculpteur Henri Laurence dans son atelier, où il a la tête bandée, il a vieilli de 20 ans, comme Apollinaire. Mais Apollinaire, lui, disparaît en 18. Et d'ailleurs, pour cette génération, la mort d'Apollinaire va être, qui a été véritablement leur porte-flambeau. Hein. C'était le porte-parole littéraire et intellectuel du cubisme. Et la mort d'Apollinaire a vraiment signifié pour eux la fin de leur jeunesse aussi, probablement, et la fin de leur insouciance et de leur monde. Et Braque se remet difficilement à travailler, mais en 1917, il y a trois tableaux magnifiques, comme des espèces de lumières au sortir de la nuit de 1917. Lumières, parce que ce sont des œuvres encore cubistes, mais un cubisme... qui fait une sorte de synthèse entre figuration et cubisme, avec un retour très fort de la couleur, une couleur rouge très vive, des pointillés aussi très gais, qui donnent une allure assez fantaisiste à cette figure de guitariste, naturellement, cette composition aux instruments de musique, et puis son chef-d'œuvre, au fond, son dernier grand tableau cubiste, cette musicienne de 1917, qui est un tableau monumental de cette figure en majesté dont Braque a dit lui-même qu'elle lui avait été inspirée par les grandes figures de la Renaissance italienne, comme celle du Masaccio au Louvre. Et donc, il nous donne une piste pour comprendre que cette œuvre est une figure de résurrection aussi, de retour à la peinture et à la vie pour Braque.
En 1917, dans la revue Nord-Sud de Pierre Reverdy, paraît l'article de Braque « Pensées et réflexions sur la peinture », un article bilan sur l'esthétique cubiste. Dans ce souci d'élaboration d'une poétique commune entre le peintre et le poète, Braque place l'émotion au cœur du processus de création. C'est un paradoxe pour le tenant d'un mouvement pictural considéré par beaucoup comme purement cérébral, Françoise Nicole.
Braque, lui, parle toujours de l'émotion du créateur, c'est-à-dire de l'élément déclencheur de la création. Comment ça commence? Dans la relation avec le monde. Alors le paradoxe, il se continue, il peut se déplier de nombreuses manières, parce que c'est le paradoxe de mettre l'émotion dans le cubisme, c'est le paradoxe aussi de mettre, d'associer au cubisme la relation avec la réalité, le choc que provoque la réalité et qui fait que le peintre se met en route, ce qui aboutira au tableau. C'est cette émotion-là qui intéresse Braque. L'émotion est le germe, l'œuvre et l'éclosion, avec cette belle métaphore végétale et animale à la fois. Après, il va falloir organiser ces moyens, il va falloir agencer le tableau, et il faut qu'à ce moment-là, le peintre fasse œuvre de composition, fasse son travail de peintre. Et l'émotion du spectateur, elle découlera de ce travail, de cet agencement, et non pas d'un état d'âme, d'une émotion préalable. Il veut nous faire comprendre qu'un tableau, c'est un espace sensible et mental à la fois.
Il n'y a jamais un moment où Braque est débordé par lui-même, par son émotion, justement.
Si, justement, c'est parce que l'émotion est sans doute très, très forte qu'il est obligé de faire un petit peu le mouvement inverse à un moment donné. C'est Christian Zerwos qui parle très, très bien de cette tension, là, qui est la tension que vit l'artiste. Toutes les fois, il écrit cela à propos de Braque, évidemment, toutes les fois qu'une invention lui venait à l'improviste, à l'esprit, une très vive impression de dépaysement le mettait sur le champ dans l'obligation de se replier sur lui-même et de retenir ses réactions spontanées.
Il y a une forme de mélancolie chez Braque,
Rémi Labruce,
très persistante, qui d'ailleurs, à la limite, pourrait être retrouvée dès le fauvisme, hein, dès les premiers moments, aussi lumineux soit-il, et en tout cas certainement dans certaines toiles cubistes. Il y a une espèce de récurrence, disons, de structure fermée, de structure close sur elle-même, qui crée un monde clos, un monde autonome, dans lequel se passe quelque chose qui est métaphysique, au fond, hein, qui parle de, alors non pas de l'être, mais de l'absence d'être, hein, d'une sorte de néant. Et ça, c'est vrai qu'on l'a assez peu dit, Braque lui-même l'a assez peu dit, comme s'il avait peur finalement de cette révélation, de cette sorte d'intuition, disons, du néant. Et celui qui s'en est rapproché le plus dans son interprétation de Braque, c'est Paulhan, avec beaucoup de circonspection et une manière de l'interpréter qui n'a pas été toujours comprise. Mais il est certain qu'à l'époque où Paulhan commence à écrire sur Braque, c'est-à-dire dans les années 40, qui sont des années en effet difficiles par ailleurs, de toute façon pour tous les peintres et pour tous les écrivains et pour tout le monde en France et ailleurs, dans ces années-là, la peinture de Braque atteint un sommet de claustration, d'enfermement qui est à la fois existentiel et pictural. Existentiel parce qu'il est chez lui, dans son atelier, qu'il n'en bouge pas, qu'il sort le moins possible, et pictural parce que sa peinture donne l'impression que les formes sont engrillagées. Vous voyez qu'on voit de nombreuses toiles dans lesquelles il y a comme une sorte de réseau de lignes entrecroisées qui sont comme un filet jeté sur les formes.
On a de Braque l'image d'un homme extrêmement secret, presque un sage.
Oui.
Est-ce que cette image lui correspond, Françoise Nicole ? Ou est-ce que vous avez une autre image à nous proposer de Braque ?
L'autre image, ça serait peut-être l'image de la maturité. L'autre image, ça serait peut-être le boxeur, le musicien, le jeune artiste qui s'était fait des lèvres rouges en métal qui posait sur ses propres lèvres pour faire peur aux filles dans la rue. Ça m'amuse de rappeler ces anecdotes parce que je suis très sensible également à l'humour de Braque, dont on ne parle pas beaucoup.
Et Braque le boxeur ?
Et Braque le boxeur, ben, moi ça me ramène à cette question de la violence contenue, oui. Ça me ramène à cette idée qui est pour moi très très forte dans cette œuvre, de la tension entre une émotion qui peut être complètement envahissante, entre la violence, etc., et puis ce qu'on parvient à en faire dans la métamorphose en quoi consiste le travail du peintre.
Est-il vrai que Braque, le sage, aurait un jour boxé un de ses marchands ?
Oui, ça c'est Rosenberg.
Ah, c'est Rosenberg qui a été boxé ?
Ah, il est tout... C'est dans cette période très difficile après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le marchand de Braque était Kahnweiler, et Kahnweiler a été dépossédé de ses œuvres après la guerre pour la raison qu'il était allemand, poursuivi dans la Deuxième Guerre parce qu'il était juif, enfin bon. Et les œuvres ont été vendues, sont parties à l'étranger, aux États-Unis. Braque a dû changer de marchand, mais il n'était pas satisfait de la relation à ce moment-là avec Rosenberg.
Donc ?
Ben donc, oui, ça s'est mal passé.
Et Braque le musicien ?
Lui jouait de l'accordéon, le violon, la guitare, dans les tableaux, c'est aussi le corps des femmes, c'est aussi le B de Braque, la guitare. C'est évidemment des formes récurrentes qui relèvent de ces images obsédantes ou obsessionnelles qui sont les siennes.
La métamorphose, toujours.
Oui. Il aimait la musique, hein, beaucoup, et il était par exemple très très ami avec Eric Satie. Le premier livre de peintre, c'est Le piège de Méduse, qui est un livre, ce sont des bois gravés qui illustrent, si l'on peut dire, le piège de Méduse d'Eric Satie. Quand Eric Satie est mort, Braque était parmi les rares qui étaient à côté de lui.
Braque est venu passer quelques jours à la campagne, à Villefranche.
Blaise Sandrars.
Il sortait de maladie, il était très mal foutu, il avait été opéré, il avait mauvaise mine, il était fatigué. Et il s'est couché dans l'herbe, au soleil, etc. Et un beau jour, ça faisait peut-être 8-10 jours qu'il était là. Il me dit, mon petit Blaise, tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver ce matin? Je dis, non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Imagine-toi, je me suis surpris en train de siffler. Je dis, j'en sais, t'es bien content, mais... Permets-moi de te dire que c'est au moins 6 jours que tu siffles. Mais tu n'en étais pas rendu compte.
Ces canets forts, inspirés des porteuses d'offrandes de la Fontaine des Innocents de Jean Goujon, elles ont été interprétées dans les années 20, qui était une période évidemment très marquée par le nationalisme, l'idéologie française, en quelque sorte, du retour à la tradition, qui est l'inévitable climat de toute période d'après-guerre. Malgré tout, donc, c'est notamment le peintre Bissière qui les a interprétées comme le triomphe de la tradition française, incarnée donc, par ces figures de Braque. Mais il y a aussi une contre-interprétation, en quelque sorte, de Karl Einstein, l'historien d'art allemand, spécialiste du primitivisme, du cubisme, qui a été l'auteur de la première monographie consacrée à Braque en allemand, donc en 1934. Et Karl Einstein, au contraire, a vu ses œuvres comme une sorte de prolongation du cubisme à cause des proportions qui ne sont pas des proportions traditionnelles, académiques, puisqu'au contraire, ces figures sont outrées, gonflées, et on voit très bien des parties qui sont quasiment abstraites, notamment ces bras qui sont gonflés comme des baudruches, ces petites mains aussi très déformées, et puis cette façon de poser la couleur par tache, par glacis, par superposition, qui font de ces œuvres justement une sorte de, non pas de parodie, mais enfin d'antidote au classicisme traditionnel.
Dans ces toiles très resserrées, ces natures mortes proliférantes, il y a ce fouillis d'objets quelquefois au premier plan dans les ateliers, par exemple. Alors, à propos de ce que l'on pourrait considérer comme un fouillis, vous employez le terme de chaos, qui a quand même une connotation métaphysique.
Oui, en effet, vous avez raison de dire qu'il a une connotation métaphysique dont Braque était plus conscient qu'aucun autre, puisqu'il avait représenté cette allégorie de la nuit, qui elle-même est considérée donc, dans la Théogonie d'Hésiode comme la fille du chaos. Donc il avait médité cette question du désordre originel en lien avec la nuit, c'est-à-dire avec l'obscurité, qui par ailleurs hante sa peinture. Alors, donc bien sûr, il y a une dimension métaphysique, ou en tout cas une dimension mythologique, mais il y a aussi quelque chose de très concrètement pictural, une sorte d'attraction du désordre. On a souvent voulu faire de Braque le peintre par excellence de l'ordre français, d'une tradition classique, lui-même s'y est plu, avec une certaine forme de retenue, de volonté d'apparaître, de refoulement, hein, j'ai envie de dire plus simplement. Et ce classicisme qui est certainement un désir à l'horizon de sa peinture, une volonté de s'affirmer comme l'héritier d'un grand cheminement classique français, est en fait menacé en permanence par une attraction du désordre.
Il y a un aspect spectral également dans l'œuvre de Braque, notamment ces fameux duos, ces personnages dédoublés, ces personnages coupés.
Oui, personnages ou objets qui ne se reflètent pas, mais sont en effet démultipliés, comme si les apparences n'étaient pas fiables.
Mais tranchées, quelquefois.
Exactement, tout à fait, tranchées, comme si non seulement les apparences n'étaient pas fiables, mais en plus qu'elles révélaient systématiquement une vérité clivée, scindée, irréconciliable. Comme si tout être était en permanence poursuivi par son double, et que ce double, honnêtement, n'était guère fréquentable. Hein. Il avait quelque chose de profondément inquiétant et menaçant.
La fin de sa vie, il prend conscience de n'avoir pas, lui, l'inventeur du cubisme, lui, l'inventeur de la troisième dimension, de ne pas avoir fait des œuvres dans cette même troisième dimension.
Armand Israël.
Il est âgé, il a 80 ans. Il a donc demandé à un de ses amis, le baron de Venfeld, qui était un lapidaire, qui était quelqu'un qui travaillait la pierre, c'est-à-dire justement de l'artisanal, de l'aider à faire ses œuvres dans une troisième dimension. Il a choisi dans ses œuvres majeures une centaine de gouaches que le baron de Venfeld a transformées, bien entendu en sa présence. Nous avons les photos pendant lesquelles ils travaillent, etc. Ensemble, ils ont conçu cette œuvre. Quand Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, qui a adoré, qui a admiré Braque, a eu vent de cette opération, il a appelé le baron d'Hovenfeld, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il est venu avec ses premiers bijoux, il leur a dit « Voilà, on est en train, déjà pour l'instant, de faire des bijoux. » Quand il a eu ça, il a dit « Attendez, il faut m'en faire 100 pour le Louvre, parce que je veux que Braque expose de son vivant au Louvre. » Et le baron d'Hovenfeld lui a dit, mais vous savez, il est malade. Il a dit, écoutez, je vous donne 9 mois pour me faire cette collection. En 9 mois, croyez-moi, ça a été un record. Et dans ces œuvres-là, vous avez des objets, des bijoux, des sculptures, des objets et des sujets. Vous voyez, c'est bien précis. Ces sculptures en papier ont été détruites. Toutes détruites, il n'en reste qu'une photo et c'est tout. Donc, pour la période des métamorphoses, il a créé une gouache qui a été transformée pour être synthétisée et pour faire une sculpture. Donc, il y a dans cette période la seule sculpture cubiste de Braque.
Braque travaillait par série, alors on connaît les natures mortes, les guéridons, les ateliers, les oiseaux, enfin toutes ces grandes séries. Et vous avez choisi pour sujet d'étude, Édouard Dor, une série tout à fait à part dans l'œuvre de Braque, peu connue de son œuvre, Les Barques. Alors pourquoi ce choix et où nous entraînez-vous sur Les Barques de Braque, dans la marge de son œuvre picturale ou au contraire au cœur de ce qui a fait les éléments principaux de sa peinture?
Oui, vaste question, parce que c'est en effet au cœur, à mon avis, hein, de sa peinture. Alors, il ne s'agit pas, comme ont pu le dire certains, d'œuvres occasionnelles de Braque, puisqu'il a réalisé au moins une bonne 60aine de tableaux représentant des barques. Il a commencé cette série de barques en 1928, au moment où il a repris la peinture de paysage. Pendant plus d'une dizaine d'années, Braque avait totalement abandonné la peinture de paysage, en fait en 1911, pour se consacrer essentiellement aux natures mortes. Et il décide, en 1928, de reprendre la peinture de paysage. Alors, pourquoi ? Ça coïncide au moment où il s'installe une partie de l'année à Varengeville. Et à partir de cette date, à partir de 1928, il commence à peindre des paysages, et notamment des bords de mer, représentant des barques, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'agit de petits tableaux, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles on en a peu parlé, qui sont pour la plupart dans des collections privées, ce qui peut aussi expliquer le fait qu'on en ait peu parlé, et qui sont excessivement déroutants. Parce qu'on frôle l'intimité de Georges Braque, en fait, dans ces tableaux. Quand on voit les autres séries qu'il a pu faire, que ce soit les guéridons, les billards, les oiseaux, les ateliers, ce sont des tableaux qui sont difficiles à comprendre, contrairement à Picasso par exemple, qui sont des tableaux, je dirais, d'intellectuels. Et ce processus-là, on ne l'a pas du tout quand on est face à ces petits paysages normands ou face à ces barques où on a immédiatement l'émotion qui passe. Quoi. Parce qu'on serait rendu compte que de 1928 à 1960, 3 ans avant sa mort, En alignant comme ça tous les tableaux représentant des barques, on a vraiment l'impression de voir vivre Georges Braque, de le voir souffrir parce qu'il était malade et de le voir peu à peu dépérir et lutter contre la mort et puis après, dans un dernier temps, se laisser aller, quoi. Puis le plus émouvant pour moi est sans doute le tableau de 1960 qui s'appelle La Barque, où là, on a une barque qui est complètement noire, une fois encore, un ciel complètement noir, avec une mer complètement noire. On ne distingue quasiment plus la barque, on n'en distingue quasiment plus les formes. Elle est complètement affaissée, avachie, elle se noie dans le sable. On n'en voit plus les limites. Et là, il y a une épaisseur de peinture qui est considérable. On voit les traces de doigts en plus, parce qu'il a travaillé la pâte à la main. Et on a l'impression qu'il y a des bouts de Georges Braque dans le tableau, quoi, dans la peinture. C'est comme si c'était de la lave en fusion, en fait, ce tableau. D'ailleurs, il disait, là, je cite une phrase de lui, où il disait que « je tripote, je travaille avec de la matière et non pas avec des idées ». Et c'est exactement ça. Dans ce tableau, là, de 1960, donc 3 ans avant qu'il décède, on a vraiment l'impression qu'il donne beaucoup de lui-même.
Et on peut se demander si la barque ne gît pas, en fait, au fond de l'eau.
Voilà, tout à
d'autant
fait.
D'autant plus qu'il y a une encre
exactement.
À côté.
C'est une question que je me suis posée aussi, mais il a peut-être coulé finalement sa barque. C'est peut-être la fin. Il a peut-être souhaité représenter cette barque qui est en train d'ailleurs de se décomposer peu à peu au fond de l'eau. C'est tout à fait une interprétation possible.
Prenons l'exemple donc de cette grande série des ateliers, et notamment donc de l'atelier 3,
Rémy Labruce.
La troisième version, en fait plutôt la deuxième, parce que la première n'était pas vraiment faite sur les mêmes compositions, de 1949. Et donc cette troisième grand atelier est censé représenter l'espace intérieur dans lequel vivait Braque. Et vous voyez que la toile, qui est donc sur fond noir, très grumeleux, et qui est donc comme si elle se protégeait par une sorte de véritable maçonnerie de l'air extérieur, cette toile est traversée de grandes lignes verticales qui véritablement transpercent, je disais traversées, mais qui transpercent les motifs, en un sens, là aussi, presque christique. C'est une sorte de crucifixion, et notamment une crucifixion de l'oiseau lui-même, disons en tout cas encagé, mais un peu plus qu'encagé, puisque vous voyez qu'il y a certaines barres verticales qui passent devant lui, comme s'il était derrière les barreaux d'une cage, et d'autres qui véritablement lui transpercent, notamment le cou. Dans une toile comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un atelier, mais que rien, a priori, n'indique aucun élément de pratique picturale. Il n'y a évidemment pas de peintre, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de palette immédiatement qu'on puisse distinguer immédiatement. Et puis quand on regarde un petit peu plus, on aperçoit que oui, sur la gauche, il y a une forme qui ressemble vaguement à une palette. On comprend par comparaison avec d'autres toiles qu'il y a certains éléments qui en fait font référence au chevalet sur lequel Braque posait sa toile en train d'être faite. Dans un autre mouvement, on ressent une formidable énergie qui vient exactement des mêmes motifs, qui vient des lignes verticales, qui sont aussi bien quelque chose de l'ordre de la fusée, du dynamisme, qui vient de la rencontre entre ces motifs figuratifs identifiables, l'oiseau qui va vers la tête de femme, la sorte de flèche qui vient rentrer à l'intérieur d'une grande urne plutôt funéraire, au fond, au premier plan, autant d'éléments qui confèrent une étrange énergie. Vous parliez d'énergie broyeuse de noir, une énergie du désespoir, peut-être, dans une toile comme celle-là. Et donc, en fait, aussitôt, j'ai dit énergie du désespoir, mais je me rétracte, au fond, pour dire qu'il y a tellement d'énergie dans le désespoir qu'il n'est plus un désespoir.
L'atelier 1, et ensuite, on voit vraiment chaque tableau est très, très différent. Les a pris, repris, et puis tout d'un coup, il y a l'épanouissement de l'oiseau. C'est l'oiseau palette. C'est vraiment, on est dans l'idée de la métamorphose. La palette devient oiseau.
C'est incroyable. Oui, oui, oui. Oh, quel tableau.
Marc Chagall.
Pour moi, c'est une découverte.
Et on ne sait pas comment c'est fait.
Je vous dis encore une fois, ne regardez jamais comment c'est fait. Regardez seulement la chimie.
En cours d'exécution, le tableau prend une prédominance et s'affirme. Alors il y a là, on peut presque dire, une lutte entre l'idée et le tableau qui se défend lui-même, vous comprenez? C'est même arrivé de constater une chose en faisant un tableau, par exemple, de m'arrêter, ni satisfait, ni mécontent d'ailleurs, et de mettre ce tableau de côté et de le regarder 6 mois après, et je trouvais que ce tableau était terminé. C'était fait tout seul. Alors je me suis souvent posé la question, mais je crois avoir compris. C'est-à-dire, quand je faisais ce tableau, j'étais encore imprégné de cette idée auquel j'aurais voulu que le tableau ressemble. Et le tableau lui-même, n'est-ce pas, prenait sa propre vie et se défendait. Si bien que quand j'ai vu ce tableau 6 mois après, j'avais perdu mon idée, je me suis trouvé en face d'une, presque dire, d'une réalité, le tableau existait de lui-même. Le tableau est fini quand l'idée a disparu.
À propos du plafond de la salle des Étrusques du Louvre, Braque a peint 2 oiseaux bleus.
Françoise et Nicole.
Sur fond noir, 2 oiseaux cernés de blanc. Et nous avons une très belle chronique du poète Georges Limbourg sur ce plafond. Une chronique très amusante, comme souvent chez Limbourg. Limbourg entre dans la salle des Étrusques, est d'abord attiré par les tombeaux, mais il lève la tête, il aperçoit le plafond et il est déçu. Il se dit que finalement, ce n'est pas aussi extraordinaire de la part de l'inventeur du cubisme qu'il pouvait l'imaginer. Alors, il cherche une stratégie, en quelque sorte, et c'est toujours une stratégie du corps avec Limbourg. C'est-à-dire qu'on ne se plante pas devant un tableau ou devant une œuvre, il faut chercher la meilleure position. Et quand c'est un plafond, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut, lever la tête, et essayer de comprendre. Comme il a déjà vu des plafonds peints en Italie, par exemple, la Renaissance italienne, il essaye d'abord de marcher de long en large pour faire apparaître les effets de perspective. Évidemment, ça ne donne aucun résultat puisqu'il n'y a pas de perspective. Et il a une illumination soudaine, il décide de tourner en rond rapidement autour de la pièce. Et au moment où il entreprend cette ronde, le manège se met en route, comme il dit. C'est-à-dire que les oiseaux se mettent à tournoyer, des espaces s'ouvrent, et des abîmes inattendus se révèlent. Et là encore, c'est la question de l'espace, de l'entre-deux, des rapports entre, non seulement entre les oiseaux et le fond bleu, si l'on peut dire, sur lequel ils se trouvent, mais aussi des rapports que saisit Limbourg entre la lumière qui sourd de ces oiseaux bleus et celle qui arrive par la fenêtre et qui, suivant les heures, va modifier encore l'œuvre d'art. Beaucoup de lumière, peu de lumière, etc. Et donc, il faut revenir, rester, se laisser enfermer dans la salle des Étrusques pour en saisir toute la vie.
J'ai vu un trou dans ce plafond, puisqu'il y avait un emplacement destiné à recevoir ça. J'ai tout de suite pensé à un ciel. Alors, j'ai fait un ciel. Le ciel, après ça, je l'ai animé. J'ai fait traverser ce ciel par des oiseaux. Et voilà comment la chose s'est développée.
Il faut inventer aussi une autre manière de regarder la peinture.
Puisque tous les Français savent qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Victor Hugo, il est bon de leur dire qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Braque, parce que l'honneur d'un pays est fait d'abord de ce qu'il donne au monde. Demain matin, madame, que l'on dise aux marins et aux cultivateurs de Varangeville qui aimait Georges Braque, évidemment, sans comprendre son art. Hier, quand il était devant le palais des rois et le premier musée du monde, il y avait dans la nuit pluvieuse une voix indistincte qui disait merci.
Georges Braque, par Françoise Esteb et Gilles Davidas, avec Édouard Dor, auteur de « Sur les barques de Braque », Armand Israël, conservateur du musée Georges Braque à Saint-Dié-des-Vosges, auteur de Georges Braque, le père du cubisme, Rémi Labrusse, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Nanterre, Brigitte Léal, commissaire de l'exposition Braque au Grand Palais à Paris, Françoise Nicole, maître de conférence à l'Université de Nantes, auteur de Braque et Reverdy, et la voix de Georges Braque. Archivina Brigitte Decroix, coordination Laurence Genepin, prise de son Étienne Leroy, mixage Jean-Michel Bernot.
C'était Une vie, une œuvre, Georges Braque, 1882-1963. Merci à Françoise Esteb et Gilles Davidas pour cette émission que vous pouvez conserver grâce au podcast ou réécouter durant 1000 jours sur notre site internet. Vous pouvez également nous retrouver, vous le savez, sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, nous parlerons de la grande écrivaine d'ex-RDA, Christa Wolf. Mais tout de suite sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le carnet d'heures avec Augustin Trapenard. Très bon après-midi à toutes et à tous.